La science CQFD, Natacha Triou.
Une nouvelle approche informatique émerge depuis quelques années. Et si on utilisait du matériel biologique, des cellules cérébrales par exemple, pour construire les ordinateurs de demain? Oui, c'est le biocomputing. Une fois que nous avons commencé à comprendre le fonctionnement du cerveau, nous nous en sommes inspirés pour faire fonctionner des réseaux de neurones informatiques. Aujourd'hui, on insiste à un renversement. Utiliser directement de vrais neurones pour nos ordinateurs, à partir d'organoïdes, ces mini-cerveaux issus de cellules souches. Cette alternative à l'informatique basée sur le silicium suscite des espoirs. Est-ce les prémices d'une nouvelle génération de technologies hybrides? Après l'IA, allons-nous voir naître l'IO, l'intelligence organoïde? Biocomputing, l'ordinature. Jean-Gabriel Ganassia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'informatique à la Faculté des sciences de Sorbonne Université et membre senior de l'Institut universitaire de France. Fred Jordan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur et co-PDG de la start-up FinalSpark qui vend l'accès à des bio-ordinateurs. Et nous sommes en ligne avec Laurie Calvet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de recherche au laboratoire de physique des interfaces et des couches minces, École Polytechnique et chercheuse CNRS. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous suivre sur X, ex-Twitter. Chaque jour, on vous publie de nombreuses ressources complémentaires. Notre live tweet commence tout de suite. Alors, quelles sont les promesses, ou du moins les espoirs du biocomputing? Quelle serait la différence entre faire tourner une IA sur un ordinateur classique et sur un ordinateur biologique? Que reste-t-il à faire pour obtenir des réseaux fonctionnels? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à toutes ces questions. On commence avec notre archive du jour. Quand le cerveau électronique est comparé au cerveau humain, nous sommes en 1950.
Eh bien, comment ce cerveau électrique est-il sorti de votre propre cerveau? Ne vous sentez-vous pas dépassé par cette machine et en comprenez-vous tous les secrets?
Nous ne pensons pas que la machine soit un cerveau. Les cerveaux qui sont en jeu sont tous humains. Les dessinateurs, les constructeurs et les opérateurs. Notre slogan favori est « Pour le cerveau humain, j'y suis, j'y reste ».
Oui, à votre avis, le cerveau humain ne sera jamais chassé par la machine.
La machine à calculer a évolué comme le résultat logique de nombreuses années de recherche de l'IBM par beaucoup de personnes différentes. Non, la machine ne nous a pas dépassés. Elle ne fera que ce qu'on lui enseigne de faire. Elle peut faire mieux que nous seulement dans la mesure où l'homme l'a prévu et l'a préparé. Nous trouvons sans cesse des manières nouvelles et meilleures d'utiliser cette machine.
Voilà la voix d'un ingénieur d'IBM dans l'émission Ainsi va le monde en 1950 sur la RDF. Jean-Gabriel Ganassia, je vous voyais sourire à l'écoute de cette archive.
Ben oui, parce que c'est vraiment dans son époque, hein, on se demandait avec ces machines si on ne pouvait pas accéder à quelque chose qui serait de la puissance d'un cerveau. Il faut savoir que dès les années 40, en 1943, avant que l'on fabrique les premiers ordinateurs, des scientifiques avaient imaginé, modélisé ce que l'on savait à l'époque du cerveau avec des dispositifs électroniques. Et c'est ce qui a donné naissance au premier article extrêmement connu de McCulloch et Pitts. Donc Warren McCulloch était un neurobiologiste et Walter Pitts qui était un mathématicien, qui se disait, on pourrait essayer de mettre des éléments électroniques ensemble et qui se connectent avec des liaisons qui ressemblent aux liaisons qu'il y a entre nos neurones, ce qu'on appelle les synapses. Ces synapses sont évolutives, plastiques, et si on adapte correctement les synapses, eh bien, on peut réaliser des fonctions logiques. Et ce qu'ils ont démontré, ce qui est très important, c'est que si on met ces neurones en trois couches, avec deux couches de synapses, on peut réaliser n'importe quelle fonction logique. Alors, ça a enthousiasmé beaucoup de personnes à l'époque, et ça a donné naissance à une discipline dont le nom est un tout petit peu oublié, encore que le terme ressort, c'est la cybernétique. Et l'idée, effectivement, c'était d'abord d'avoir une machine qui fasse du calcul, qui fasse de la logique, et la logique c'est la loi de la pensée, et puis en même temps, qui modélise tous les systèmes complexes. Donc ça, ça a été un grand enthousiasme. Bien sûr, ce qui était très difficile, c'était de se demander comment est-ce qu'on allait apprendre, c'est-à-dire comment on allait fixer les poids, c'est-à-dire les conductivités des connexions synaptiques à la main. Et comme c'était impossible, enfin, ou très difficile, à ce moment, on s'est dit, on va essayer de le faire automatiquement. C'était l'apprentissage machine. Et on s'est heurté à la difficulté de faire de l'apprentissage machine. Les premiers qui sont cassés les dents là-dessus, par exemple, Marvin Minsky, ont reçu des échecs. Ensuite, en 1958, il y a eu des premiers résultats positifs avec le perceptron, mais on le faisait pour des réseaux à deux couches. Or, pour que ce soit bon, il faut que ce soit trois couches. Et ensuite, il a fallu attendre, ça marchait pas, bien sûr, sur deux couches, et il a fallu attendre 1986, pour que on puisse généraliser l'algorithme du perceptron et que on fasse ce qu'on appelle la rétropropagation de gradient, hein, c'est-à-dire qu'on propage en arrière. Un gradient, c'est une différence. On propage sur les poids de connexion la différence entre la sortie obtenue et la sortie espérée. Et là, on a commencé à faire de l'apprentissage. Mais là encore, c'était très lent, très poussif. On va revenir là-dessus peut-être aujourd'hui parce que on a arrêté de faire des réseaux de neurones et puis on a recommencé en 2012 à peu près avec ce qu'on appelle les réseaux de neurones profonds, mais ils n'ont rien de profond, c'est simplement qu'ils ont plus de couches, hein, au lieu d'avoir trois couches, ils ont 15 couches et là les résultats ont été extraordinaires.
En tout cas, merci pour ce rapide historique sur la naissance, hein, de cette notion de réseau de neurones. Je me tourne vers vous, Fred Jordan, et je reviens aussi sur mon archive parce qu'il y a quand même un parallèle qu'on peut faire entre les réseaux artificiels et les réseaux biologiques.
Ah bah oui, en fait, initialement, que vous venez parfaitement de l'expliquer, en fait, on a fait des réseaux artificiels, on a fait des modèles numériques des comportements des réseaux biologiques. En fait, c'était ça l'idée initiale et ça fonctionne aujourd'hui, on voit terriblement bien. Donc, cette démarche a été faite dans un sens et ce qui est en train peut-être de se produire aujourd'hui, c'est de faire la démarche dans l'autre sens. C'est ça qui est intéressant, se dire, bon, au lieu de faire tourner des simulations digitales des neurones, en fait, on va peut-être pouvoir utiliser des vrais neurones, mais connectés ensemble avec potentiellement des capacités qui pourraient être au moins identiques à celles qu'on a en artificiel et peut-être bien supérieures.
Votre réaction, vous aussi, Laurie Calvet, à l'écoute de cette archive et au balbutiement de la notion de réseau de neurones?
Oui, je suis fascinée par l'utilisation en fait de biologie en général pour faire les calculs. Et je crois que ce qui est en train de faire Monsieur Jordan, c'est vraiment de mettre une nouvelle sorte de calcul dans nos mains. Donc c'est vraiment intéressant.
De la biologie pour faire des calculs, c'est en effet ce qu'on appelle le biocomputing. Moi, j'aime bien passer toujours dans ces émissions par le petit point définition. Jean-Gabriel Ganassia, de quoi parle-t-on quand on parle de biocomputing finalement?
Alors, d'abord, il y a une première, il faut être une première mécompréhension. Hein, ce qu'on appelle la bioinformatique, qui n'est pas le biocomputing, c'est l'utilisation des ressources informatiques pour traiter les données biologiques. Par exemple, on séquence des molécules, des protéines, des génomes, et on est capable d'interpréter les séquences de molécules avec tout un tas d'approches mathématiques, d'intelligence artificielle. Ce n'est pas de cela dont on parle ici. On prend du matériel biologique et à partir de ça, on essaye de fabriquer de nouveaux méthodes de calcul. Aujourd'hui, c'est fait avec de la physique, avec du silicium. Et on peut imaginer autre chose. Alors, c'est pas tout neuf, hein, ça fait déjà un certain nombre d'années. On a fait dans les années 90, par exemple, des puces sur ADN, hein, avec des principes particuliers. Et puis, on a fait aussi du stockage, hein, avec ce qu'on appelle de l'ADN synthétique. D'ailleurs, il y a une petite société, hein, qui a été montée et qui vous permet de stocker des éléments d'information et ensuite de les relire de façon automatique. Et ça, c'est aussi, d'une certaine façon, du biocomputing. Et puis, sur ce que nous propose Fred Jordan, ça va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on essaye d'utiliser ce qu'on appelle des organoïdes, hein, mais on reviendra peut-être tout à l'heure sur la définition de ce qu'on appelle un organoïde. Hein,
parce que ça, et vous avez bien raison de resituer aussi historiquement, parce que dans les années 2000, il y avait Ditto qui avait pris des neurones de sangsue et qui avait montré qu'il pouvait aussi faire des fonctions logiques. Donc c'était un des premiers à vraiment implémenter avec des neurones une fonction assez de base. Donc, c'est toujours intéressant de voir. C'est, normalement, ça n'arrive jamais qu'il y ait une idée comme ça qui surgisse du néant. Il y a d'autres personnes qui ont eu des idées ponctuellement avant. Ça s'est arrivé.
En effet, dans le biocomputing, il y a aussi autre chose, hein, ce qu'on appelle l'ordinateur organique. C'est ce sur quoi vous travaillez, Laurie Calvet. Hein, où là, vous ne travaillez pas avec des matériaux biologiques, mais des matériaux organiques. Et notamment dans le projet Bayflex.
Oui, donc on s'inspire de biologie, en fait, pour créer des nouvelles sortes de calculs, mais notre matériau, c'est pas biologique, c'est plutôt organique, donc synthétisé dans un laboratoire, donc avec des réactions chimiques. qui peut nous permettre de faire des ordinateurs qui coûtent, qui sont, qui concernent le développement de RAM. Ça veut dire qu'il ne va pas coûter beaucoup d'énergie à fabriquer. Donc, bien sûr, un organoïde ne va pas non plus va être très efficace en énergie pour la fabrication. Mais, enfin, la différence, ce serait que nous, on peut construire des portes logiques qui sont traditionnelles, mais dans des matériaux qui sont soutenables.
Oui, c'est avec des matériaux chimiques qui sont moins énergivores, quand on parle d'ordinateurs comme ça, organiques. Fred Jordan, on a entendu parler de hardware, de software. Aujourd'hui, on entend parler de wetware, wetware computing. Pourquoi wet?
Alors, wetware, bah, c'est wet parce que les cellules vivent en milieu humide. Donc ça, c'est vraiment fondamental.
Comme notre drôle d'ordinateur qui est le cerveau.
Exactement. Bon, faut savoir, j'ai un doctorat plutôt en mathématiques appliquées. Je me suis mis à la neurobiologie parce que ça me semblait nécessaire pour accomplir ce projet-là. Et effectivement, une chose qu'on a réalisée tout de suite, c'est que c'est du milieu humide en permanence. C'est là-dedans qu'on peut faire vivre et croître des cellules neuronales et des cellules gliales qui constituent nos organoïdes cérébraux.
Jean-Gabriel Ganassia. Sur cette, justement, sur cette nouvelle définition et l'apparition du wetware computing.
Mais aujourd'hui, les ordinateurs reposent sur des composants électroniques qui sont intégrés sur du silicium. Ça a bien marché, on a réalisé des prouesses extraordinaires depuis à peu près 1960, ça fait très longtemps. Mais on sait qu'il y a des limites, ce qu'on appelle le mur du silicium. Donc on peut explorer d'autres approches, on en a exploré, j'ai parlé des puces sur ADN, et puis aujourd'hui on parle de l'ordinateur quantique, et donc il est bien de tout explorer. Ça ne se limitera certainement pas à cela si on veut aller plus loin. Et puis, il y a aussi une autre dimension qu'on évoquera certainement tout à l'heure, c'est la consommation énergétique. Pendant longtemps, lorsque on intégrait des puces sur silicium, plus on diminuait la taille des composants, moins on consommait. Parce que la distance à parcourir était de plus en plus faible. Et donc, on avait une augmentation des puissances de calcul, une augmentation de la capacité de stockage des machines, avec une diminution de la consommation électrique. Aujourd'hui, comme on ne peut plus diminuer, eh bien on va se retrouver dans une impasse. C'est-à-dire que on va, lorsqu'on voudra avoir une plus grande puissance de calcul, mettre en parallèle les puces. Et à ce moment-là, eh bien, si on les met en parallèle, on va consommer de plus en plus d'énergie. Et donc, c'est un espoir. Alors, bien sûr, comme dans la recherche fondamentale, hein, on n'a aucune certitude, mais il faut justement qu'on recherche dans différentes directions. Après, peut-être qu'on abordera peut-être les questions éthiques, parce que c'est du matériel biologique, et bien sûr, ça peut poser un certain nombre de questions.
Ah, vous êtes en train de dévoiler mon plan. Laurie Calvet, voilà, quand on parle de cette exploration, d'autres approches avec d'autres matériaux, est-ce qu'on va changer d'époque informatique?
Oui, je crois. Je pense qu'on va vers une... Enfin, c'est vraiment la progression aujourd'hui, c'est de regarder d'autres matériaux et de chercher des applications pour ces autres moyens. Donc, par exemple, ce qui fait les organoïdes, qui est intéressant, les cerveaux, pourquoi il est intéressant, du point de vue matériau, on peut mettre en densité énorme de connectivité qu'on n'arrive pas à faire avec d'autres matériaux. C'est ça qui est vraiment, enfin, qui fait un peu exploser les idées, parce que quand on essaie de faire notre transistor organique, alors, même en silicium, vous pouvez mettre beaucoup sur en 2D, en deux dimensions. Mais dès que vous essayez de mettre tout ça ensemble sur 3D, c'est impossible. Et avec un organoïde, vous avez tout ça dans un bout. C'est ça l'espoir. Donc, en fait, ce qu'on fait en organique, on n'arriverait jamais à la densité d'une vraie de biologie.
Alors, comment faire pour remplacer les puces électroniques par des cellules biologiques, autrement dit, pour faire exécuter des calculs plus ou moins complexes par des composantes biologiques? Restez avec nous, on y vient.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, et oui c'est du direct, nous sommes avec Laurie Calvé, Jean-Gabriel Ganassia et Fred Jordan. Nous parlons de biocomputing, des ordinateurs organiques à base de mini-cerveaux humains, hein, les organoïdes. On vient de voir, hein, comment les chercheurs d'aujourd'hui, comment se dire, sont passés à cette réflexion, hein, sur les architectures des ordinateurs, mais en utilisant la technologie des cellules souches. Fred Jordan, votre start-up Final Spark a dévoilé en juin 2024 un processeur constitué de 16 organoïdes cérébraux. Alors ce bioprocesseur composé de neurones vivants, avant de parler de ses capacités, déjà, à quoi ça ressemble, qu'on se le représente?
Alors, justement, j'ai amené le cœur des systèmes avec moi.
C'est ce que vous nous avez apporté là, d'accord.
Je l'ai apporté au studio, donc on peut le voir, je peux le décrire, effectivement. C'est d'abord un système microfluidique, hein, d'où votre question précédente sur le wetware. Il faut toujours apporter des fluides pour garder en milieu aqueux ces cellules ou ces organoïdes cérébraux, sinon elles vont mourir en quelques minutes. Et puis, on a plein de petites micro-électrodes qui permettent de faire un contact électrique avec ces organoïdes cérébraux. Et sur ce que j'ai amené là, on peut mettre 4 organoïdes cérébraux. Chacun est connecté avec 8 électrodes qui peuvent nous servir soit à lire les potentiels d'action. Donc les potentiels d'action, c'est comme ça que les neurones communiquent. C'est, on peut dire, des petits champs électriques qu'on arrive à mesurer. Et on peut aussi leur envoyer du courant pour les stimuler. Et c'est par cette discussion qu'on espère arriver à leur faire apprendre des choses utiles. Parce que là, on a effectivement, vous avez bien dit, on a des processeurs, mais c'est des processeurs qui font ce qu'ils veulent. Et ça, c'est pas très utile. Nous, on a besoin de processeurs qui font ce que nous, on veut. Donc là, le challenge, c'est l'apprentissage.
Je vois Jean-Gabriel Ganassia se pencher autour de cette puce.
Voilà. Non, mais je crois... Avant, on reviendra peut-être sur la question de l'apprentissage.
Oui,
qui,
oui.
Moi, m'intéresse beaucoup parce que je suis aussi spécialiste, hein, de ce domaine-là en intelligence artificielle. Mais avant cela, peut-être pour les auditeurs, expliquer ce qu'est un organoïde.
Un organoïde, en effet. On parle de mini-cerveau, mais voilà, c'est un abus de langage quand même.
C'est un peu, voilà. C'est très général. Ce sont des tissus biologiques que l'on fait croître et qui ont certaines fonctions des organes. Alors, on a, par exemple, des tentatives aujourd'hui de la recherche pour essayer de pousser des bouts de rétine, hein, ou des bouts d'intestin, hein, ou des bouts de foie. Hein, et c'est même pas tout le foie, d'ailleurs. Hein, c'est certaines parties du foie. Et donc, on prend des cellules, sont des cellules souches, c'est ce que vous avez expliqué, c'est-à-dire des cellules dont on dit qu'elles sont totipotentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent servir à n'importe quoi, et puis on essaye de les faire croître. Et bien sûr, c'est extrêmement difficile, hein, et ensuite, elles peuvent avoir certaines des fonctions de l'organisme qu'elles représentent. Et donc, si on prend des cellules totipotentes, puis qu'on essaye de faire croître des neurones, ça va être donc une certaine fonction du neurone. Alors, bien sûr, c'est pas tout le cerveau. D'ailleurs, le cerveau, c'est tellement compliqué, il y a tellement de choses différentes. Et on appelle ça, d'ailleurs, des cérébroïdes. Hein, et c'est de ça pour que les auditeurs comprennent bien. Donc, c'est très nouveau, hein, et ça a des applications. On espère que ça aura des applications médicales. Et là, on essaye de regarder juste les fonctionnalités. Alors après, bien sûr, il y a deux questions. C'est la survie, parce que vous imaginez que c'est quand même très, très fragile. Hein, et la connexion avec l'électronique. Et puis, la deuxième, c'est celle de l'apprentissage. Alors là, qui est encore...
Ce sont des outils très, très utilisés en recherche fondamentale. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs à se procurer notre podcast. On avait consacré une émission qui s'appelait Organoïdes, silence, sa puce. On vient de vous poster le lien sur notre fil Twitter. Ces organoïdes il n'y a pas d'organoïdes dans
je sais pas amener là.
Ils sont pas là, mais les organoïdes que vous avez présentés en juin dernier, Fred Jordan, il y avait combien de neurones vivants à l'intérieur d'un organoïde cérébral?
Alors, sur un organoïde cérébral, on a environ 10 000 neurones, d'accord? Et on a aussi des cellules gliales, hein. Et ça nous fait une petite sphère d'environ 400-500 microns de diamètre à peu près. On ne peut pas facilement aller plus loin aujourd'hui, parce que sinon on a des problèmes de nécrose à l'intérieur, parce qu'on n'a pas de système vasculaire. Faut voir. Donc si vous faites un organoïde trop gros, les nutriments ne pénètrent pas au centre. Et donc ça meurt. D'accord. Et puis Jean-Gabriel, vous avez parfaitement raison. S'il y a des problèmes de survie, il faut savoir que nous, quand on a commencé il y a 5 ans, la durée de vie, c'était 1 heure. D'accord. Aujourd'hui, on a 3 mois. Donc... on a fait un grand bond. Donc, à 3 mois, on commence à avoir quelque chose qui est utilisable, effectivement, où que les gens peuvent se connecter à distance pour pour faire des fonctions, quoi.
C'est 10 000 neurones vivants, hein, c'est à peu près la taille d'un cerveau de drosophile, c'est ça?
Alors, larve de drosophile.
De larve de... Ok.
c'est vraiment alimentaire. Donc, mais attention, quand même, il y a Gerstner qui avait publié déjà il y a longtemps dans son livre Spiky Neurons, c'est les neurones à impulsion, d'accord? C'est des modèles digitaux qui sont très peu utilisés en pratique, mais qui sont superbes, parce que c'est des modèles temporels, d'accord. Et il avait bien montré qu'avec des modèles temporels, donc je rappelle que les neurones biologiques sont temporels, ils envoient des impulsions, d'accord. C'est pas comme ça que fonctionnent les neurones artificiels en général, d'accord. Ils fonctionnent pas à impulsion. Et il a montré qu'il y avait avec beaucoup moins de neurones, on arrivait à faire la même chose qu'avec des neurones artificiels standards, type ChatGPT, qui ont des fonctions d'activation toutes bêtes, quoi.
Laurie Calvé, j'aimerais bien connaître votre regard, vous aussi, sur les travaux de Fred Jordan.
Ben, comme j'ai dit, je pense que c'est une nouvelle façon de faire un ordinateur avec un matériau différent, donc, qui est différent que ce qu'on fait classiquement. Et enfin, mon avis, c'est qu'il faut regarder quelle sorte d'application on peut avoir. Parce qu'il y a, par exemple, le fait que ça va durer que 3 mois. Après, vous avez certainement des variabilités qui va avoir un rôle important. Ça veut dire que chaque système de 16 mini-cerveaux va être différente. Voilà, donc pour moi, c'est très intéressant. Je serais intéressée de voir ce que vous pensez en termes d'application.
C'est une bonne question. En effet, les applications qui sont pressenties pour ces machines-là, entre guillemets, Fred Jordan.
Parce que oui, Laurie a bien raison. La variabilité, par exemple, c'est un des gros problèmes qu'on a et qu'on n'a pas lorsqu'on fait des systèmes. Enfin, qu'on a quand même, hein, mais qu'on a beaucoup moins. Laurie va me dire qu'il y a aussi des variabilités avec des matériaux. Mais avec du vivant, c'est vraiment très fort la variabilité qu'on a. Et ça, c'est un des challenges qu'on a, il y en a beaucoup, hein, c'est d'arriver à avoir quelque chose d'à peu près reproductible. Donc, tous les organoïdes cérébraux qu'on crée et la même densité de neurones, de cellules gliales se comportent de manière identique. Sachant que, de toute façon, il y a une chose qu'on ne pourra pas maîtriser, c'est la connectique initiale. La manière dont ils se connectent, mais ceci dit, Jean-Gabriel, c'est la même chose avec les réseaux neurones artificiels, on peut initialiser de manière random les points initiaux, donc ça, on peut vivre avec cette idée-là. Donc on peut partir avec un initial aléatoire, et ensuite il va falloir avoir des algorithmes d'apprentissage pour arriver à changer ces connexions.
Alors deux choses, déjà, avec les grands modèles de langage, le résultat n'est pas tout à fait prévisible. Avec la même entrée, on peut obtenir des textes qui sont totalement différents. Alors ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, je crois, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a des modèles de calcul qui seront très différents de ceux que nous avons aujourd'hui sur les architectures classiques de von Neumann, avec une unité centrale qui fait un certain nombre d'opérations logiques élémentaires. Donc ces modèles, il se peut qu'ils soient bons pour certaines opérations, de même que les ordinateurs quantiques, oui. Ils seront en mesure de faire certaines choses, mais ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on aura un ordinateur quantique sur le coin de notre bureau. Alors là, on aura peut-être une puce sur le coin de notre bureau, mais ça pourra faire certaines choses mieux que le font les ordinateurs actuels, avec un coût au plan énergétique plus faible, mais bien sûr, pas tout, hein, c'est-à-dire pour faire des additions et des soustractions, je pense que ce ne sera pas extrêmement utile.
Non, vous avez
en revanche, pour faire de l'optimisation, il se peut hein, qu'on ait d'excellents modèles de calcul. Je pense que c'est
oui, ça on est parfaitement d'accord. On ne va pas avoir Windows 10 qui tourne sur un biocomputer, ça ne va pas arriver. Et même des problèmes de crypto, des choses comme ça qui sont adressées par des ordinateurs quantiques, par exemple, on ne serait pas du tout à l'aise. On a un problème avec des ordinateurs biologiques qui c'est un problème de latence. Ça, c'est fondamental. C'est constitutif, un neurone, il est relativement lent. D'accord, il est comme ça. Et effectivement, on a une connectique formidable, ça fait partie des atouts, mais ça va rester pour toujours. Ça va rester avec une certaine latence.
Alors, comment, puisque vous parlez en effet de l'intérêt de biocomputing, l'intérêt de ces ordinateurs basés sur organoïdes, c'est avant tout, le premier intérêt, c'est la consommation d'énergie?
Alors, effectivement, alors, nous on l'a vu autrement. Nous, on a commencé avec des simulations de neurones digitaux. Et la raison pour laquelle on est passé en biologique, c'était la consommation de nos serveurs. Parce que Final Spark, dans les 5 premières années, 2014-2019, on faisait des simulations, on avait des kilowatts de serveurs. Et pour chaque kilowatt de serveur consommé, c'était le double en refroidissement. Donc, à la fin, on s'est retrouvé avec quelques centaines de neurones simulés. Ah, ils étaient beaux, nos neurones simulés, formidables, mais c'était ridicule par rapport aux 100 milliards qu'on a, nous. Donc, on s'est dit, mais là, on est en train d'utiliser le mauvais outil. On ne peut pas y arriver comme ça. Et comme on avait la chance, il y avait le Human Brain Project. Donc ça, c'est l'Union européenne qui a financé ce développement pour 1 milliard d'euros quand même, qui était à l'EPFL, donc à 30 km de chez nous. On a rencontré le professeur Mark Ram. Lui, il avait des vrais neurones, c'était son métier. On s'est dit, mais peut-être, c'est une idée folle, mais peut-être on pourrait utiliser des vrais au lieu d'essayer... voilà, désespérément de simuler des voilà. Et il faut pas oublier que
c'est à ce moment-là, c'est avec The Human Brain Project que vous avez eu l'idée d'utiliser des vrais neurones.
Oui, parce que on avait un des employés de Fenway Park qui a, pour son service militaire, qui a travaillé dans le laboratoire du professeur Mark Ram. Donc un jour, il est venu avec cette idée folle en disant, mais écoutez, peut-être que on pourrait peut-être penser que voilà. Donc c'était fou, mais effectivement, mettons en perspective que 100 milliards de neurones, notre cerveau, 10 000 connexions par neurone, c'est 20 watts. C'est 20 watts. Aujourd'hui, si vous voulez une simulation de ça, digitale, comptez une petite tranche de centrale nucléaire. Voilà. Donc, il y a quand même un problème. Et on parle de ratio. Si on voit l'article du professeur Hartung d'il y a 2 ans maintenant, il parlait d'un ratio de 1 million en termes d'efficacité énergétique. C'est énorme. C'est vraiment...
Laurie Calvert, hein, quels sont les, justement pour continuer, hein, les espoirs que suscite cette alternative à l'informatique basée sur le silicium?
Pour moi, l'intérêt, c'est de trouver surtout des choses qu'on peut faire plus efficacement qu'avec le silicium. C'est-à-dire qu'avec le silicium, on peut faire un calcul, mais n'importe quel calcul, et ça peut être pas très efficace. Mais il y a certaines applications où vous allez dire, on n'a pas besoin de ce calcul-là. C'est sûr que pour le computing, enfin, calcul scientifique, là, on a besoin des modèles très lourds. Si vous allez essayer de comprendre le changement climatique, par exemple, là, c'est d'énormes calculs. On ne va jamais y arriver si on n'utilise pas des calculs classiques. Par contre, il y a certaines choses qu'on peut faire dans d'autres méthodes, par exemple, en calcul probabiliste. C'est un peu le but de mon projet européen, c'est de faire des calculs où on n'a pas besoin de la précision qu'on a sur le sien, mais qui va nous permettre d'aller beaucoup plus bas en termes d'énergie d'utilisation. Parce que enfin, quand vous faites des calculs en silicium, vous avez une précision énorme, et c'est cette précision, en fait, qui vous amène à la consommation d'énergie. Et justement, quand vous allez faire un calcul avec un organoïde, vous n'allez jamais avoir la précision qu'il y a en silicium. Mais par contre, vous avez d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Par exemple, si chaque organoïde est différente d'un autre, vous pouvez en fait utiliser comme en cryptographie. Enfin, justement, vous avez un système qu'on peut pas reproduire. Donc, vous pouvez, par exemple, produire une clé uniquement que vous avez dans votre système que vous n'avez pas ailleurs. C'est ça peut être une chance incroyable.
Jean-Gabriel Ganassia.
Il me semble que la question qui se trouve derrière, c'est celle de l'universalité des ordinateurs, car depuis 1945, et même un tout petit peu avant, avec Alan Turing, il y avait un principe général, avec une unité de calcul qui était assez simple, et puis le programme qui était en données. Et on est resté en grande partie sur ce type d'architecture, même si on a considérablement perfectionné, accéléré ces outils. Et il se peut qu'il y ait bientôt de nouveaux modèles de calcul, alors, qui serviront effectivement pour des applications spécifiques. Par exemple, pour la cryptographie, il me semble que l'ordinateur quantique va rendre des services considérables. Parce que, bien sûr, on peut faire des clés d'abord qui sont singulières, etc. Puis on peut essayer de décrypter avec... alors il y a deux choses. Il y a la cryptographie quantique, hein, et puis il y a les ordinateurs quantiques qui sont des choses différentes.
Oui, tout à fait.
On n'a peut-être pas le temps d'expliquer, hein, mais ce qu'on appelle la cryptographie quantique, hein, c'est le fait de crypter avec des principes de physique quantique, tandis que l'ordinateur quantique, c'est un ordinateur dans lequel on représente l'informatique, non plus avec des 0 et des 1, mais avec ce qu'on appelle des qubits, hein, qui sont un mélange de 0 et de 1. Donc là, on peut faire des choses particulières. Par exemple, hein, il se peut qu'il y ait des techniques d'optimisation qui se fassent beaucoup mieux avec les ordinateurs quantiques, mais avec peut-être de temps en temps hein, des erreurs. Et là, même chose, hein, je pense qu'on aura certainement des modèles de calcul qui seront un tout petit peu différents, même très différents. Et la question, c'est à quoi, bien sûr, ça va servir en particulier.
Voilà, cette technologie, hein, l'ordinateur biologique, elle se construit au carrefour de trois ruptures technologiques. Les organoïdes cérébraux, l'électrophysiologie, l'intelligence artificielle. Après l'intelligence artificielle, bientôt l'intelligence organoïde. Il y a encore quelques verrous technologiques et théoriques à faire sauter avant. Restez avec nous. Kraftwerk, Numbers, en direct sur France Culture, car nous parlons des balbutiements du biocomputing avec nos trois invités du jour. Jean-Gabriel Ganassia, professeur d'informatique à la Faculté des sciences de Sorbonne Université et membre senior de l'Institut Universitaire de France. Fred Jordan, cofondateur et co-PDG de la start-up Final Spark. Et Laurie Calvé, chargée de recherche au laboratoire de physique des interfaces et des couches minces, École Polytechnique et chercheuse au CNRS. On vient de voir que de tels ordinateurs biologiques reposent sur de véritables architectures neuronales en 3D, les organoïdes cérébraux humains. C'est un procédé qu'on sait relativement bien contrôler en laboratoire à partir de cellules iPS, les cellules souches pluripotentes induites. On continue d'en parler avec vous, Céline Lausanne. Bonjour.
Bonjour, Natacha.
Et vous êtes allée au sein d'une plateforme de biotechnologie de l'unité neurodidro à l'hôpital Robert Debré où des chercheurs cultivent des populations d'organoïdes cérébraux.
Oui, il s'agit de la plateforme EMBO où on étudie le neurodéveloppement normal et pathologique. Vincent Alguzi, chercheur CNRS, y étudie les anomalies cérébrales en reproduisant des modèles de cerveau des patients. À partir de leurs cellules, il parvient à en créer des progéniteurs des neurones, puis des neurones en 3D. Mais attention, ici, on ne parle pas de mini-cerveaux, mais bien de sphéroïdes pouvant servir autant en clinique qu'en innovation.
On arrive dans l'unité neurodidro qui s'étend sur trois étages, on est au troisième. Et puis on ira voir tout à l'heure la plateforme Humbo pour les organoïdes qui se trouve deux étages plus haut. Alors, je peux vous montrer quelques images. Voilà. Donc ces cellules souches pluripotentes, on peut envisager à partir d'une cellule d'un patient de générer des cellules neurales, c'est-à-dire des progéniteurs des neurones, et ensuite des neurones. Ce que vous voyez ici, ces espèces de plages, ce sont des millions de cellules qui sont compactées en colonies, donc c'est des cellules identiques entre elles, pluripotentes, iPS. Et donc quand on a cet ectoderme, puis ce neurectoderme, on peut avoir des progéniteurs neuraux. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces progéniteurs neuraux, ils ont une particularité que moi je trouve assez fantastique, c'est qu'ils ont gardé la mémoire de s'auto-organiser de façon polarisée. Et c'est ce qu'on a. On voit ici des sortes de petits agrégats sphériques qui flottent, qu'on appelle des sphéroïdes, et je vais vous en montrer tout à l'heure au L2. Ces agrégats, on les laisse se multiplier pendant quelques jours. Donc cette masse, c'est le sphéroïde qui s'est agrégé, et tout autour, vous avez des petits barillets, et si vous zoomez, vous voyez qu'en fait, ce sont des rosettes neurales, c'est-à-dire comme des marguerites, dont le centre représente le côté apical, avec la lumière, donc c'est l'équivalent de la lumière du tube neural. Et puis la périphérie, hein, l'autre bout des pétales, ça veut dire que ces cellules-là sont capables de s'auto-organiser pour former une forme de signature cellulaire du début du développement cérébral. Malgorzata Tarak, qui est plutôt biochimiste.
Je suis carrément biochimiste.
C'est vrai qu'on ne doit pas prononcer le mot d'électrophysiologie, mais j'imagine qu'en tant que chimiste, ça doit aussi apporter un éclairage utile pour comprendre et guider ce développement.
Oui. On est en train d'installer dans le laboratoire, alors c'est pas au même étage que la plateforme, c'est juste en dessous, un appareil de patch clamp qui permet de piquer un neurone. C'est-à-dire que sous le microscope, on voit le corps cellulaire du neurone et on peut introduire une pipette minuscule en verre qui va permettre soit de stimuler le neurone, soit d'enregistrer sa réaction électrique. Et alors, ce qui est plus récent et qui se développe de plus en plus dans les laboratoires aussi, c'est d'enregistrer des courants électriques et de stimuler des organoïdes avec de multiples électrodes. Là, dans le patch clamp, vous avez, on va dire, une électrode et vous patchez un neurone, d'accord ? Là, dans le MEA, le multi-électrode array, ça fait chic, hein, vous avez parfois plusieurs milliers d'électrodes et qui sont montées comme des petites puces en silicium, hein, comme dans un ordinateur, mais qui sont intégrées à une plaque de culture. Et donc, au lieu de faire pousser vos neurones ou vos organoïdes, donc à chaque fois, je fais le parallèle entre le 2D et le 3D, sur un plastique quelconque, ils poussent sur un plastique qui est équipé de ces électrodes. Et donc, un grand nombre de ces électrodes vont pouvoir s'introduire, rentrer, pénétrer dans les neurones, et donc servir à la fois à envoyer des stimuli et à enregistrer des réponses électriques de ces neurones qui sont non plus étudiées cellule par cellule, mais en réseau.
La collective.
Voilà. Ici, vous avez un sas qui est, lui, alors, en légère surpression, parce que c'est là qu'on va s'habiller. Alors, oui, ici, on s'équipe.
Surchausse.
On s'équipe, surchausse, lavage des mains. Ensuite, on met une blouse. Voilà. Alors là, vous êtes dans l'encre de Neurodhydro où on cultive les IPS et les cultures 2D. Et puis, dans la pièce suivante, on a des incubateurs spécialisés puisqu'ils sont équipés d'agitateurs particuliers pour les cultures 3D.
Vous voyez, là, on déclenche le flux d'air.
Voilà, vous avez ici ce qu'on appelle une plaque de 24 puits. Donc, c'est une boîte de pétri. Et dans chacun des puits, on a disposé des petites lamelles de verre. Et sur ces lamelles de verre, on a mis un revêtement qui va mimer la matrice extracellulaire. Et sur ce revêtement, on a déposé des progéniteurs qu'on a induits en neurones. Alors là, je peux vous montrer le microscope. Voilà. Donc ici, on est à un grossissement qui est à peu près 400 fois. La culture est très dense, mais vous avez ici... Alors, des tas de petits fils, je ne sais pas si vous arrivez à les voir.
Si, 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 en
qui sombre. Sont, ouais. Qui sont les, en sombre, exactement. Qui sont les prolongements des neurones. Alors, il faut se mettre dans un endroit où on arrive à les voir, parce que vous voyez ici, la densité est telle qu'on peut même... Les cellules sont trop serrées les unes contre les autres. Mais en fait, il y en a partout.
Ouais. En termes de population, il y en a combien?
Alors là, vous êtes de l'ordre de plusieurs millions de cellules.
C'est énorme.
Ouais. Alors, ces cellules-là, elles ont à peu près 2 semaines. Et elles sont prévues pour être arrêtées, c'est-à-dire on va fixer les cultures, c'est-à-dire enlever le milieu, et mettre un produit qui va faire que les cellules vont être figées dans leur état, pour pouvoir ensuite les analyser au microscope.
On voit que le processus est quand même long et fastidieux avant d'aboutir à ce stade.
Oui, c'est ça. Donc on fait induction in vitro, induction neurale. Ici, alors, vous allez voir.
Qu'est-ce que vous avez sorti de,
alors,
de
ça, ce sont les petites boîtes pétri. Donc, c'est un autre support, en fait, de culture. Et donc, ça, ce sont les cellules pluripotentes, les IPS. Et donc, les IPS, normalement, peuvent donner tout type de cellulaires, aussi bien les neurones que foie, rein, tout, le cœur. Mais nous, on utilise les protocoles spécifiques pour induire une différenciation. Pour le progéniteur neuron, par la suite, le neurone cortico.
Donc, ce sont ces structures-là que vous pouvez soit déposer en deux dimensions, blanches. Et ça va faire les rosettes neurales dont je vous parlais tout à l'heure, soit les conserver en trois dimensions, les faire grossir, et elles vont donner les organoïdes.
Merci, Céline Lozen, pour votre reportage. Laurie Calvé, une réaction à ce qu'on vient d'écouter?
Oui, c'est vraiment bien ce que vous venez de montrer. C'est Alors, moi, quand vous m'avez contacté, j'ai pensé que c'était de parler plutôt des avancées qu'on peut faire avec les organoïdes. Et pour moi, les grandes promesses, c'est justement l'utilisation médicale. Mais vous avez déjà fait un podcast sur ça. Ce qui est vraiment fascinant pour les organoïdes, c'est que vous êtes humain, on ne va pas faire des expériences sur les humains. Mais si vous avez des organoïdes, là, vous pouvez faire votre expérience. Et surtout, les organoïdes qui imitent les cerveaux. Alors, notre cerveau, on ne peut pas vraiment utiliser des animaux parce que notre cerveau est beaucoup plus complexe. Donc, vous imaginez, vous pouvez, par exemple, prendre des cellules souches qui sont d'origine des pathologies neurodégénératives. Vous pouvez voir comment ça évolue avec des cellules souches qui sont plutôt pas des mutations vers les états neurodégénératifs. Donc, pour moi, c'est vraiment ce que vous venez de montrer. Ça montre le développement de cette technologie. Par contre, enfin, il y avait des problèmes. Hein, c'est le long de la vie des organoïdes. Et l'autre, c'est en fait très important, c'est comment on fait des connexions. Parce que les connexions, en général, qu'on fait, c'est avec... Ils sont durs, ils sont pas, c'est des métaux, typiquement, c'est pas des organiques. Donc, justement, ce que je fais, rapproche à est-ce qu'on peut ajouter, par exemple, est-ce qu'on peut faire croître une organoïde sur des organiques, par exemple. Et finalement, on peut faire une sorte d'échelle qui va aller dans le centre d'un organoïde pour que vous avez connectivité partout. Voilà. Donc, mais par contre, comme j'ai dit précédemment, les matériaux que vous avez pour un organoïde, il est potentiellement très intéressant au niveau de calcul, justement parce que vous avez cette densité qu'on ne trouve pas dans d'autres matériaux qu'on regarde pour nouvelle sorte d'ordinateur avec des nouveaux matériaux. Donc, il y a plein de possibilités.
À propos de matériaux, vous m'avez dit pendant l'écoute de ce reportage, Fred Jordan, que c'était les premiers ordinateurs compostables.
Oui, effectivement, tout à fait. Oui, c'est des matériaux vivants. Et il faut voir aussi, il y a la scalabilité qui vient avec ça. Comme il a été vu dans votre reportage, les cellules neuronales, on les multiplie, on en fait des millions. En fait, nous, on doit arrêter le processus pour ne pas en avoir trop. Et donc, en fait, c'est très particulier. Les transistors, ils ne se multiplient pas spontanément. Donc, c'est...
Jean-Gabriel Ganassia.
Oh ben, c'est passionnant, tout ça. Et ça m'a évoqué, alors, ça n'a peut-être rien à voir, Leibniz. Parce que, vous savez, quand il parle de la vie, le vivant, pour lui, ce sont des machines. Et il dit, les machines artificielles, il y a un moment donné, quand on les décompose, ben, il n'y a plus de machines, il y a juste de la matière continue. Et il dit, le vivant, ils sont machines jusque dans les moindres de ses parties. Ben, c'est ce qu'on observe ici, hein, c'est effectivement. Oui. Alors ensuite, bien sûr, des questions techniques qui ont été évoquées, hein, la connectivité, parce que c'est vrai qu'avec avec le métal, ça doit être très difficile. Effectivement, l'idée qu'on puisse connecter à du matériau organique, j'imagine que ce sont des pistes passionnantes. Et puis, bien sûr, après, la question qui nous intéresse, c'est l'apprentissage. Parce que, justement, est-ce qu'on simule l'apprentissage du vivant? Et on sait quand même un tout petit peu comment ça se produit dans le vivant. Et donc là, il y a des neurotransmetteurs, il y a tout un tas de choses.
Fred Jordan, parce que le dispositif, ces organoïdes sont nourris par de mini-canaux, c'est de la microfluidique. Les signaux électriques envoyés et reçus par des puces de micro-électrodes peuvent ensuite être interprétés par des systèmes d'intelligence artificielle. Comment ensuite, ça, vous travaillez à parvenir à des signaux utiles et à travailler sur l'apprentissage de ces machines-là?
Alors, je peux dire les pistes qui sont suivies actuellement. Il n'y en a pas beaucoup, faut être assez clair. Alors, d'abord, au niveau de la littérature scientifique, in vivo, l'apprentissage est un phénomène qui a été extrêmement bien étudié. Et il y a beaucoup de littérature là-dessus. Mais là, nous, on n'est pas in vivo, on est in vitro. Et là, c'est le contraire. Il n'y a quasiment aucune littérature sur l'apprentissage in vitro. Ça peut paraître incroyable, mais c'est la situation. Or, c'est précisément ce dont on a besoin. Il faut savoir que sur le fond du problème, on a exactement la même situation qu'avec des réseaux neurones artificiels. Le challenge, comme il y a 20 ans, c'est l'apprentissage. Bon, mais par contre, cette fois-ci, on ne va pas pouvoir venir régler les connexions synaptiques comme on fait avec des ordinateurs parce qu'on n'y a pas accès. Donc effectivement, les deux pistes qui sont suivies, la piste fondamentale qui est suivie, c'est des pistes de récompense et de punition. D'accord. Donc ensuite, qu'est-ce qu'une récompense et qu'est-ce qu'une punition? C'est là où les choses se compliquent. Alors il y a deux directions pour définir ça. Il y en a une qui est le principe d'énergie libre du professeur Freestone, qui consiste à dire que si vous stimulez de manière pseudo-aléatoire un tissu nerveux, il va prendre ça plutôt comme une punition parce qu'il est incapable de prédire ce qui va se passer. Et si vous le stimulez de manière régulière, il va plutôt prendre ça comme une récompense. C'est un principe, il n'y a pas de démonstration derrière ça. Il faut tester pour voir. Donc ça, c'est une direction. Et l'autre direction que nous, on a plutôt tendance à suivre, c'est d'utiliser des neuromodulateurs et des neurotransmetteurs. Donc, on est capable, dans le milieu de culture...
Comme la dopamine.
Comme la dopamine, effectivement. Ça, on adore la dopamine parce que, bah, justement, bah, elle est bien documentée in vivo. D'accord ? Donc, on fait des cages moléculaires autour des molécules de dopamine qu'on met dans le milieu de culture et qu'on ouvre grâce à des ultraviolets qui permettent d'ouvrir la cage moléculaire et de libérer la dopamine. Donc, ça nous permet d'avoir une récompense à un instant très précis.
Mais comment vous codez et décodez le message ensuite envoyé à l'organoïde?
Ah oui, bah ça c'est...
C'est paradoxe, vous passez par l'IA finalement.
Vous avez parfaitement raison. Alors, il y a les entrées, comment on formate les entrées pour se faire comprendre par l'organoïde et comment on comprend nous-mêmes, on interprète les messages qui arrivent. Et effectivement, alors là, il y a des méthodes de traitement mathématiques statistiques qui sont bien connues. Alors là, je suis content parce que je retombe un peu sur mes pattes. Par contre, on a aussi, et ça c'est très amusant, aussi des méthodes avec des réseaux de neurones artificiels. On peut utiliser des réseaux de neurones artificiels en entrée et en sortie pour formater les données. Donc ça, c'est aussi toute une direction de recherche qui existe.
Par rapport aux limites, hein, parce qu'il reste encore beaucoup à faire pour obtenir des réseaux fonctionnels, on l'a dit, hein, le problème majeur, c'est la durée de vie et la taille.
Oui.
Il faudrait pouvoir... Pour moi, vous dites la durée de vie des organoïdes, pour l'instant, c'est 3 mois. Comment on peut travailler justement pour améliorer cet aspect-là?
Bon, d'abord... Alors... Comme je disais, on est parti d'une heure, donc 3 mois, c'était
déjà assez avancé.
Et il faut voir aussi que les organoïdes, nous, on a des provisions, on a des stocks d'organoïdes qu'on garde, et les plus vieux ont 2 ans. Donc on peut les garder. Le problème, c'est dès qu'on rentre en contact avec des électrodes, c'est là que ça qui diminue leur durée de vie. Donc là, il y a des, on va continuer à travailler sur la vascularisation et sur la microfluidique. Ça, c'est les deux directions. Mais je dirais, je peux pas être trop confiance sur cette partie-là, mais j'ai l'impression qu'on peut arriver à trouver des solutions. La grosse partie disruptive, c'est vraiment sur l'apprentissage. Parce que ça, on va devoir utiliser, a priori, des fonctions d'apprentissage qui sont built-in, comme on dit, qui sont déjà existantes, à la différence des réseaux artificiels où on vient se greffer et on vient forcer le système à apprendre. Là, on va le laisser apprendre tout seul parce qu'il est censé savoir faire ça.
Votre point de vue également, Laurie Calvé, sur les verrous technologiques à dépasser?
Ah ben moi, je pense que 3 mois, c'est très bien. Hein. Je pense qu'avec 3 mois, vous pouvez trouver plein d'applications. Donc pour moi, ça ne me dérange pas du tout. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quelle application ça peut servir en fait. Parce que les nouvelles technologies, justement, on cherche des applications niches où vous pouvez le faire avec un ordinateur classique, mais pourquoi? Enfin, si on peut le faire avec quelque chose qui est compostable, qu'on peut réutiliser, qui est biologique, qui va être bien pour l'environnement, on se penche plutôt vers ça. Donc pour moi, je pense que le verrou, c'est vraiment déjà trouver l'application. Et deuxièmement, trouver une application où la variabilité, le changement, voilà, c'est pas gênant. Et bien sûr, il faut faire l'apprentissage assez vite pour que c'est utile pour la plupart des 3 mois.
Jean-Gabriel Ganassia.
Juste pour dire sur l'apprentissage, bien sûr, hein, parce que c'est ça qui m'intéresse. Je suis d'accord, 3 mois, c'est déjà pas mal, hein, parce qu'on peut les dupliquer, etc. Mais sur l'apprentissage, ce qui est intéressant, c'est que le principe sur lequel ça repose, punition-récompense, c'est exactement celui que l'on a utilisé sur les réseaux de neurones formels ou sur d'autres techniques d'apprentissage en intelligence artificielle, comme ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Bien sûr, ensuite, toute la question, c'est savoir quels sont les mécanismes qu'on va employer. Et bon, on nous a dit là, c'est passionnant parce qu'on voit différents mécanismes, en particulier avec les neuromodulateurs et les neurostimulateurs. Donc moi, j'attends vraiment de voir les résultats pour essayer de voir qu'est-ce que ça va apprendre, hein, exactement, hein, quel est le type de fonction. Parce que c'était, avec l'intelligence artificielle, une des grandes questions, hein, quelles sont les fonctions que ça apprend. Alors, avec les théories statistiques de l'apprentissage, on avait une définition claire. Hein, c'était dans les années 90, puis ensuite, on a développé les réseaux de neurones formels, les neurones profonds, pardon. Et là, on n'a plus vraiment de théorie de l'apprentissage, mais ça marche extrêmement bien. Alors là, on va voir. Hein, est-ce qu'on est capable de savoir quelle est la classe de fonctions qu'on est capable d'apprendre, ou simplement est-ce qu'on a des réalisations pratiques qui donnent des résultats époustouflants. Donc moi, j'ai vraiment envie de savoir tout ça.
On arrive vers la fin de cette discussion. Alors, bon, on a compris, on est loin encore de faire de l'ordinateur biologique. On peut surtout faire des organoïdes pour comprendre comment fonctionne le cerveau. Pas d'application concrète pour le moment, mais quand même, il commence à se poser la question, hein, des questions éthiques autour de ces choses, entre guillemets, Jean-Gabriel Ganassia.
Oui, ces questions sont multiples. La première, c'est qu'on utilise du matériau biologique qui vient de personnes. Donc il faut s'assurer quand même qu'il y a un consentement. Hein, parce que c'est du matériau humain qu'on utilise. Hein. Et donc ça, je suppose que c'est assez simple. Hein, mais surtout, après, les résultats. C'est-à-dire que si on vous prend votre propre, des cellules de votre cerveau, on fait pousser un cervoïde. Et à qui appartient le cervoïde? C'est quand même votre cerveau. Mais tout ça, au fond, on peut arriver à le régler. Il y a une question ouverte. Et là, je ne sais pas si on a de réponse, parce que est-ce que c'est petits cérébroïdes, hein, c'est-à-dire ces organoïdes qui utilisent des cellules du cerveau, est-ce qu'ils vont souffrir? Est-ce qu'il va y avoir une conscience qui va émerger?
Peuvent-elles être sensibles?
Alors ça, c'est une question tout à fait mystérieuse. On a l'impression que c'est tout petit, hein, et que de toute façon, c'est qu'une toute petite partie du cerveau, ce qui fait qu'on l'évacue. Mais en tout cas, ce sont des questions ouvertes, et certainement, il faudra qu'on les suive, qu'on ait des réponses là-dessus. Mais peut-être que vous en avez. Hein, mais
Non, en fait, alors, la réponse immédiate actuellement, c'est qu'on a à peu près autant de neurones que dans une larve de drosophile, en fait, dans chacun des organoïdes. Donc ça, c'est pas beaucoup, il n'y a pas de problème éthique à ce stade-là. Mais c'est vrai, potentiellement, on pourrait en faire 1 milliard, 10 milliards. Il n'y a pas vraiment de limite théorique, en fait, sur ce qu'on peut faire. Et là, il y a des questions qui sont ouvertes. Et non, j'ai plus de questions moi-même que de réponses.
Laurie Calvé?
Je pense que la question d'éthique est délicate, parce que... Comme vous avez dit, après on a des résultats avec votre souche, enfin, ça appartient à qui. Mais je pense qu'en gros, dès que vous avez donné, enfin, logiquement, si vous êtes d'accord pour donner votre cellule, il faut que vous soyez d'accord pour que le résultat soit ailleurs après. Voilà. Après, c'est vraiment, enfin, c'est des choses qu'il faut aborder, enfin, dès maintenant, pour qu'ensuite on a des moyens, des règles pour que les gens qui s'en servent ont un cadre pour suivre.
En tout cas, les spécialistes de l'IO se sont engagés à les intégrer au développement des aspects techniques en signant la Convention de Baltimore en 2022. Et vous-même, Fred Jordan, vous allez faire appel à des éthiciens au sein de votre start-up. On termine, on n'a plus beaucoup de temps, mais je voulais quand même aussi finir un mot hein, sur votre plateforme, NeuroPlateforme. Vous avez mis à disposition vos organoïdes en accès libre pour 9 universités partenaires.
Bah, oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pendant le Covid, on ne pouvait pas venir au labo, donc on a dû téléopérer. Donc, faire des systèmes qui permettent de travailler de la maison. À la fin du Covid, on pouvait tout faire, nos manips, de la maison. Et effectivement, on a demandé des universités, est-ce que vous êtes intéressés? Et il y a 34 qui nous ont répondu, mais oui, on voudrait accéder à vos neurones et faire des tests pour développer le biocomputing. Donc, on en a sélectionné 9, et maintenant, ils sont utilisés H24, ces neurones à distance. Quoi. Donc,
cette neuroplateforme, on peut en plus se connecter dessus grâce à ce projet de collaboration internationale.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, en fait, ouais, si vous allez sur le site, vous pouvez voir en temps réel les signaux qui arrivent des neurones tels qu'ils sont. Donc,
On va se brancher dessus, on vous poste le lien sur notre fil Twitter. Tout de suite, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbaume, mais merci beaucoup, Laurie Calvé, merci Fred Jordan et merci Jean-Gabriel Ganassia. Aujourd'hui, Alexandra Delbaume nous parle de Mars qui cacherait dans ses profondeurs un réservoir d'eau liquide. C'est la chronique avec Science.
« Mais où est passée l'eau sur Mars? Il y en avait, c'est certain, parce que cette planète a été très humide par le passé. Et puisque l'on sait que cette molécule est indispensable à l'émergence de la vie telle qu'on la connaît, de nombreuses missions tentent de débusquer cette eau dans l'espoir de trouver des traces de vie. Aujourd'hui, en regardant Mars, on voit encore les traces de cette eau du passé dans des écoulements d'anciennes rivières ou des marques de tsunamis, mais ce n'est pas suffisant. Où est passée cette eau qui coulait à flot sur Mars? Il y a 3 milliards d'années, eh bien, il y a plusieurs possibilités qui ne s'excluent pas nécessairement entre elles. Caroline Fraissinet est chercheuse CNRS en sciences planétaires et astrochimie au laboratoire Latmos à Guyancourt.
Une partie a pu être perdue dans l'espace. Les molécules d'eau sont cassées en atomes, s'échappent dans l'atmosphère et cette eau est perdue dans l'espace. On arrive à retracer un petit peu cette perte dans l'espace. Donc on sait qu'il y en a eu, on sait pas à quel niveau. Une autre partie de l'eau qui a gelé, donc ça on en retrouve aujourd'hui sous forme de calottes au pôle sud, au pôle nord de Mars. Une autre partie de l'eau qui est incorporée dans des minéraux. Donc typiquement, les argiles qui sont formées en présence d'eau liquide vont avoir une certaine quantité d'eau. Et les mesures qui sont faites sur Mars montrent que le sol de Mars est très humide. Le sol de Mars n'est pas si sec que ça. Là où Curiosity, le rover Curiosity martien, se déploie à la surface de Mars, il a pu analyser le sol et montrer qu'on avait jusqu'à 2% en masse d'eau dans certains sols qui sont analysés. C'est-à-dire, sur chaque mètre cube de sol martien, on peut extraire 20 litres d'eau. Alors, ce n'est pas de l'eau qui est disponible. C'est de l'eau absorbée ou intégrée dans des minéraux. Mais c'est quand même de l'eau liquide. Et enfin, l'eau passée martienne aurait pu s'intégrer dans des aquifères liquides souterrains sous la surface de Mars.
Et c'est cette dernière contribution possible qu'a voulu étudier une équipe californienne. Pour cela, cette nouvelle étude parue dans PNAS a analysé des données sismiques récoltées par l'instrument SAIS, qui lui est bien de chez nous, Cocorico. Il a été fabriqué dans les labos de l'Institut de physique du globe de Paris. SAIS était embarqué sur la sonde InSight, qui a achevé sa mission en décembre 2022. Pendant ces 4 années de bons et loyaux services, le robot a accumulé énormément d'informations qu'on continue encore à l'heure actuelle d'analyser comme ces données sismiques. C'est un petit peu comme une échographie, on regarde comment les ondes se propagent dans le sous-sol de Mars, mais la méthode est ici un petit peu détournée. Il ne s'agit pas d'observation directe d'eau dans le ventre de la planète rouge, mais de modélisation, des simulations qui prennent en compte de nombreux paramètres comme la minéralogie des sols ou leur porosité. Les auteurs les ont fait varier pour trouver un modèle numérique qui correspondrait le mieux aux données sismiques. Résultat, le modèle le plus cohérent comporte un grand réservoir d'eau liquide dans les profondeurs de Mars, situé entre 11 et 50 km de profondeur, mais ce n'est encore qu'une hypothèse.
Dessus de cette zone, c'est incompatible avec la présence d'eau liquide dans les conditions martiennes actuelles. Donc, de toute façon, si on s'attend à avoir de l'eau liquide, c'est à une certaine profondeur. Et donc, cette profondeur a été estimée à partir de ces résultats comme étant au-dessous de 11,5 km de profondeur. Tout est spéculatif. C'est de la spéculation sur la propagation des ondes qui va correspondre le mieux à un des modèles avec tous les paramètres intégrés, dont les paramètres de minéralogie et les paramètres de porosité. Donc, ce n'est pas que le résultat est controversé ou quoi que ce soit, c'est que c'est un résultat qui est basé sur un certain nombre d'hypothèses. Ce sont des hypothèses qui sont basées sur assez peu de points de données et qui sont une corrélation entre un modèle et des data qui sont observées. Donc, une corrélation, ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. Donc, ça reste quelque chose qui est hypothétique, qui est spéculatif, qui correspond. Mais d'autres hypothèses qui n'incluent pas des aquifères souterrains peuvent également correspondre.
La publication reste évidemment intéressante. Chaque nouvel élément sur la disparition de l'eau sur Mars donne des informations inédites sur lesquelles d'autres scientifiques vont à leur tour plancher. Et c'est finalement un exemple de comment fonctionne la recherche. Mais ce n'est pas une preuve de la présence d'eau liquide sur Mars. Malheureusement, c'est une étude assez difficile à confirmer en l'état. Les mesures actuelles qui permettent de sonder Mars, comme le radar MARSIS porté par Mars Express, ne vont pas aussi profondément, pas plus de 3 à 5 km. En revanche, toujours basé sur l'interprétation de données et non pas l'observation directe, cet instrument avait mis au jour de possibles poches d'eau très salée, de l'eau saumâtre dans la calotte polaire. Trouver davantage de ces poches au pôle étayerait donc la possibilité d'en trouver ailleurs sur la planète.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfrance, Céline Lozen, Alexandre Morales, Ali Ruyer-Thompson. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Grégory Wallon. Nous sommes podcastables à toute heure sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.